Retour vers le passé, une émission proposée par tous les élèves de 5e du collège de Gémozac. Suivez les aventures historiques de nos héros sur les routes de Pau.
Septembre 1180. Les enfants trouvent un autre objet et comprennent qu'ils doivent reconstituer un puzzle pour trouver l'énigme finale. Ils sont transportés en 1178 sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle avec l'abbesse Hildegard, qui a béni l'église de Rioux, important lieu de pèlerinage. Leur ami Enguerrand n'est plus avec eux. Ils ne savent pas s'ils doivent s'en réjouir ou s'en inquiéter.
S'ils découvrent la région, réciproquement, les villageois sont étonnés. Des pèlerins, ils en voient passer, mais un cortège aussi imposant, c'est bien la première fois, et certains s'arrêtent dans leurs activités pour les regarder. Ainsi Marie-Jeanne, une paysanne de 27 ans, curieuse et arrogante. Elle est mère de deux enfants vivants de 6 et 8 ans et de trois autres morts en bas âge. Son premier, une fille, est morte-née et les deux autres ont été emportés par une maladie lors d'une récente famine. Elle s'occupe de faire les tâches ménagères et de faire la cuisine toute la journée. À son veuvage, elle a dû se débrouiller seule. Son mari est décédé dans un accident, une charrette l'a écrasé alors qu'il tentait d'en réparer la roue et le pauvre bougre s'est retrouvé coincé à étouffer dans d'horribles souffrances. Depuis, elle vit avec un homme pauvre mais courageux, un bûcheron, qui au moins a le mérite de protéger son foyer. Marie-Jeanne est sur la route du marché pour vendre un peu de bois et quelques œufs. Elle y prendra des légumes pour faire une soupe. Elle interroge un pèlerin aux cheveux bruns, aux yeux bleus et de taille moyenne.
Dieu vous garde. D'où venez-vous tous aussi nombreux ?
Dieu vous garde, ma bonne femme. Je m'appelle Théophile. Je viens de très loin, par-delà le royaume de France. D'autres compagnons de route viennent de tous les horizons. On ne parle pas la même langue, mais on a le même cœur. Comme vous en doutez, nous allons à Saint-Jacques. Vous rendez-vous au marché ?
Oui, da, j'y vais. Voulez-vous des œufs ?
Merci beaucoup, mais je fais une halte d'abord à l'hôpital où l'habite en se battant.
Pourquoi tout ce monde ? Qui est cette dame en tête du cortège, entourée de tant de soins ?
Nous allons célébrer l'ouverture du nouvel hôpital des pèlerins avec Mère Hildegarde, une abbesse allemande très réputée qui est en lien avec Dieu car elle a des visions célestes et des prémonitions. Elle est docteur en sciences, connaît tous les secrets des plantes pour soigner et guérir. C'est une femme vénérable de 80 ans, d'une très grande piété, qui mérite toute notre admiration. Le pape reconnaît ses qualités et sa proximité avec notre Dieu Tout-Puissant et lui demande conseil parfois.
À ces mots, Marie-Jeanne se met à genoux et se signe. Elle est impressionnée d'avoir vu une personne célèbre passer à côté d'elle. Elle remercie Théophile et regarde le cortège défiler. Les pèlerins ne sont pas mécontents d'arriver. Le bâtiment qui s'impose à eux est hors des murs de la ville pour y accueillir les nécessiteux à toute heure. Un grand porche de trois travées enjambe la route vers Bordeaux. En plus du corps principal, sont construites une église et une salle des malades, bordées à l'ouest par un jardin médicinal. Le cortège et son invité sont reçus par l'abbé et les chanoines avec tous les honneurs. Gîtes et couverts les attendent, ainsi que la prise en charge des blessés et malades, comme Hugues de Châtillon l'été dernier, dont un prieur raconte l'histoire à Hildegarde.
Ayant quitté la belle cité de Sainte, où ils ont passé la nuit, Hugues et ses compagnons s'engagent sur la route de Pont par une matinée chaude et ensoleillée. Ils empruntent la vallée des Saônes pour profiter de la fraîcheur des ombrages. Des troupeaux sont en pâturage avec leurs bergers. Ces campagnes semblent riches et bien tenues. Certaines sont des réserves des évêques de Sens. Chemin faisant, Hugues veut profiter de l'eau fraîche de la rivière pour se désaltérer. Il s'approche du bord, se met à genoux et se penche au-dessus de l'eau. Soudain, une vipère jaillit d'une touffe de joncs. L'infortuné seigneur par mégarde saisit le serpent en même temps que les herbes et l'animal pris au piège le mord. À peine commencé, ce pèlerinage est compromis. Est-ce un message du Tout-Puissant ? Une punition ou une épreuve infligée au seigneur de Châtillon pour ses péchés ? Très inquiétés par ce présage, tous se mettent à prier. Très vite, le seigneur se trouve fiévreux et son bras est engourdi. Au bout de quelques minutes, il est incapable de mettre un pied devant l'autre. Après quelques instants de panique, ses compagnons s'organisent pour couper quelques solides branches afin de confectionner un brancard. Le seigneur, encore conscient mais fortement affaibli, est ainsi transporté en toute hâte vers notre hôpital.
Puis à sa demande, on lui présente le jeune Alphonse, le botaniste de l'hôpital. En effet, Hildegarde est spécialiste des plantes et propose de parfaire les connaissances du jeune homme. Celui-ci arrive et raconte comment il en est arrivé là.
Grâce à mon grand-père Baptiste qui était botaniste, j'ai suivi ses traces à l'âge de 16 ans et appris de lui le métier. Un jour, lorsque j'allais au marché, je longeais l'église Saint-Vivien lorsque je vis la lumière du vitrail briller au sol. Je suivis des yeux ce rayon de poussière d'or que faisait la croix du Saint et vis au pied du troisième pilier de porse une plante bientôt fanée. Je voulus la sauver, déterrer délicatement la plante en prenant bien soin de sa racine, la protéger dans ma semiche puis repartir chez moi afin de la replanter dans un petit pot. Toussé, mon grand-père décida de me léguer tout son savoir et m'aider à revigorer cette plante afin de pouvoir par la suite soigner les hommes par ce que la nature, dans son œuvre divine, procure. Quelques jours plus tard, la pousse était devenue un beau vert foncé, au feuillage aérien et duveteux, avec des petites boules de fleurs jaunes qui dégageaient une odeur assez forte. Mon grand-père me dit que c'était un pied d'armoise. Mise dans les chaussures, cette plante a la vertu de diminuer la fatigue pendant la marche, mais elle peut aussi être utilisée en cas d'épilepsie. Quelques temps plus tard, je dus aller à l'hôpital des pèlerins et vis un saint homme alité. Possédé par le démon, le pauvre moine ne ressemblait plus à une créature issue de la bonté divine. Il s'était peu à peu métamorphosé en une bête sanguinolente. Je décidai de tenter de le soigner avec une plante secrète. Pour cela, je l'accueillis à minuit, un soir de pleine lune, dans un pré voisin. L'écrasai aussitôt avec un pilon dans un bol. La texture devint rapidement pâteuse et de couleur rouge, et son parfum sentait bon. Puis je rajoutai un peu d'eau afin de lui faire boire. Le pertuyer n'avait plus de force. Il toussa beaucoup et commença à s'étouffer. Soudain, subitement, il sombra dans un sommeil profond. Je le réveillai 24 heures après, lui redonna de la potion pour que la fleur agisse. Ce fut le cas. Toute la science de Baptiste réussit à soigner cet homme et moi, reconnaissant à Dieu qui m'avait éclairé pour suivre le chemin de mon ancêtre. Je décidai de vivre à demeure à l'hôpital neuf comme apothicaire.
Hildegarde est impressionnée par la maturité du jeune homme et ils discutent ensemble un long moment. Elle se rend au chevet des malades et rencontre le père Thuyer qui lui explique ce qui lui est arrivé.
Ma vocation est d'exorciser les gens. J'enlève les démons et fais des incantations. À 6 heures, je fais sonner les cloches. À tierce, je fais ma prière. Mais vous connaissez ma mère, le déroulement d'une journée moniale. Quand j'ai découvert mon don, j'ai remercié Dieu. Dans mon village, je suis très aimé et connu, car j'ai aidé des gens du village. Mais un jour, j'ai vécu une incantation très compliquée à faire. Et j'ai mal prononcé une phrase. Le démon est entré en moi et je suis devenu possédé. J'ai d'abord commencé à hurler, puis à me débattre et à baver pour enfin m'endormir. Au début, je ne sentais plus rien. Puis 2 jours après, j'ai eu des démangeaisons et des vomissements. Je me mutilais, des croix de Jésus sortaient de mes joues. Je commençais à avoir les yeux tout noirs qui saignaient. Mes dents devinrent toutes pointues et pourrirent avec du sang. Les doigts coupés à l'extrémité saignaient eux aussi. J'ai grandi, suis devenue très mince. La peur au ventre, je me suis enfuie pour partir me cacher dans la forêt. Je suis allée dans un autre village et tous les habitants se sont mis à prier devant moi. Et grâce à la puissance de leur foi et de leur compassion, le démon est parti de mon corps et je suis tombée par terre. 3 heures après, je me suis réveillée ici. Je me suis levée de mon lit et j'ai vu que j'étais redevenue comme avant. Je me suis promis de ne plus faire d'incantations et d'être tout simplement un prêtre dans une église. Donc j'ai demandé au sire de Pont et à l'évêque de travailler dans l'église de Saint-Vivien. D'ici quelques jours, j'y entrerai en fonction, quand je serai pleinement rétablie.
Hildegarde est heureuse que le mal ne l'ait pas emporté. Elle prie avec le père de longues minutes. Puis elle visite le jardin médicinal, petit carré de jardin où poussent les plantes cultivées pour les vertus qu'elles ont de guérir ou de soigner, et le scriptorium. Elle veut être seule, alors on la laisse. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est pourquoi elle voulait y être seule. De son côté, Geoffroy III a préféré ne pas venir à la rencontre d'Hildegarde, en accord avec elle. En effet, il est lui-même autant modeste que chrétien et ne veut pas priver l'abbesse de ce moment privilégié qu'elle a avec son fief. Il pense que sa présence empêcherait certains gens de sa population de lui parler franchement. De plus, c'est lui qui a financé la construction de l'hôpital neuf en donnant deux prés, un étang et le droit qui lui appartenait dans les forêts avoisinantes. Il veut ainsi éviter toute épidémie en éloignant du centre les malades et les lépreux, mais il ne veut pas paraître altruiste. Son rôle de seigneur consiste également à protéger tous ceux qui vivent sur ces terres. Il lui donne temps, récoltes et argent, il peut en retour leur favoriser les soins. Il convie donc Hildegarde et toute la ville à un grand festin dans son château le lendemain, pour leur laisser à tous le temps de se reposer. Le lendemain donc, ce sont pour une fois nos trois amis qui vont à la rencontre d'Enguerrand. Celui-ci blêmit à leur vue et manque tomber de cheval. Cette réaction, loin du sourire qu'il affiche habituellement, les conforte dans leur opinion. Enguerrand n'est pas le gentil petit page qu'il veut faire croire. Ils ont bien fait de le tester. Triomphant, il le salue.
« Eh bien, Enguerrand, tu n'es pas content de nous voir ?»«
Si, si, mais je m'attendais pas à vous. »« Ah ah, tu le reconnais, fourbe. Tu ne viens vers nous que quand tu le veux. Nous aussi, on a certains pouvoirs. »
Guillaume fanfaronne. Enguerrand devient livide.
« Comment savez-vous que j'en possède ?»
Isabelle plante ses yeux dans les siens.
« Tu oublies que c'est toi-même qui nous l'a dit. »«
J'ai dit que je suis le seul à vous voir, c'est tout. »«
Et ce n'est pas suffisant ? Tu as d'autres pouvoirs ?»
Enguerrand transpire, danse sur un pied, puis sur l'autre.
C'est bon, je vous dis tout. Après tout, cela me soulagera, car je suis très gêné vis-à-vis de vous. C'est un secret très lourd à porter. Je suis content que vous m'ayez découvert. Voilà.
Enguerrand, que fais-tu à parler à ce cheval ? Viens donc plutôt m'aider. J'ai besoin de toi pour le banquet de ce soir. Richard nous accorde une trêve pendant le siège. Il faut en profiter et ne pas perdre de temps. Allez, suis-moi.
L'appel de Geoffroy n'admet pas de réplique. Enguerrand hausse les épaules et le suit en baissant la tête.
C'est quand même pas de peau, on est maudits. Au moment même où nous allions enfin tout savoir.
C'est comme les pubs à la télé, elles arrivent toujours quand c'est intéressant.
Quelle frustration! Mais puisqu'il n'y a que lui qui nous voit, on peut le suivre. S'il y a un moment, il nous expliquera. Sinon, on l'attache à un piquet, on le force à tout nous dire.
Ou alors on l'emmène dans le cachot de ce pauvre gars et sa vue le fera parler.
Vous regardez trop les séries, les garçons. Il est piégé, il finira bien par parler, pas besoin de le torturer.
Ils suivent donc Enguerrand le long de tous les préparatifs de la soirée. Il faut bien reconnaître que le galopin n'a pas une minute à lui ce jour. Il tourne des yeux désespérés vers eux, voulant dire
« Vous voyez bien que ça ne dépend pas de moi. »
Son impuissance et sa tristesse font jubiler nos trois amis, mais irritent l'entourage du jeune garçon qui ne cesse de se faire disputer. Il finit par se réfugier auprès d'un jeune homme timide, très discret, qui lui propose.
« Veux-tu que je te chante ce que je vais interpréter ce soir ? Tu me diras ce que tu en penses et ça te changera les idées. »«
Je veux bien, Rigaud, si ce n'est pas trop triste, car j'ai le cœur bien lourd. Mes amis voient que je souffre et se moquent de moi, ce qui me désespère encore plus. Je n'ai pas le courage de les affronter, alors si vous me le permettez, je suis attentif à vos paroles. »
Rigaud de Barbezieux prend son rebec et entame.
« Ma reine, je me suis battue pour vous. Quand je vous vois, mes yeux se transforment en cœur doux. J'ai vu la mort devant mes yeux, je suis à vos genoux. Pour dire que mon cœur ne bat que pour vous, la fenêtre de mon cœur est ouverte en grand. Comme une feuille, mes sentiments s'envolent au vent. Vers vous qui hantez mes pensées, tel un roi, je vous servirai. » Je pensais divertir avec les chevaliers de la table ronde, et notamment l'amour de Lancelot pour Guenièvre. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée ? J'ai peur d'ennuyer les gens.
Mais non, vous avez du talent, Rigaud, et votre couplet est très beau. Gardez-le pour ce soir. De plus, les romans de Chrétien de Troyes sont excellents.
Oui, j'aime particulièrement l'amour sacrificiel de Merlin pour la Dame du Lac. C'est l'histoire à laquelle je suis le plus sensible.
Cela vous ressemble tout à fait. Moi, c'est celle d'Yvain, quand il devient ami avec le lion ou quand il perd la raison par amour. Mais il faut avouer que les épreuves qu'affronte Lancelot pour sa dame sont spectaculaires. Quant à l'idée d'une table ronde pour ne soulever d'iniquité entre les chevaliers, c'est une sacrée trouvaille. Allez, je dois retourner aux écuries accomplir mes tâches de galopin. Sinon, mon sire Geoffroy va encore râler. Et il aura raison. Il veut présenter un spectacle équestre et je dois préparer les chevaux. Bonne soirée, Rigaud. Je suis sûr que vous allez charmer, comme d'habitude, tout votre auditoire. N'oublie pas un ou deux chants écrits par l'abbesse. Cela montre l'amitié qui nous lie.
Tu as raison, galopin. Je vais les réviser. Excellente suggestion.
Enguerrand retourne donc aux écuries, ne pouvant révéler ce secret si lourd. Nos trois amis, quant à eux, éreintés par toutes ces aventures, décident de retourner à l'hôpital. En chemin, Isabelle aperçoit un homme qui possède le collier que Guillaume porte constamment sur lui, celui de sa famille. Comment peut-il être en sa possession, puisque ce collier est légué de génération en génération aux aînés ? Ils le suivent jusqu'à sa maison, mais, arrivé devant le domicile, l'homme a disparu. Il s'est volatilisé comme par enchantement. Ils décident de pénétrer dans la bâtisse, et en ne voyant personne à l'intérieur, ils cherchent un indice ou quelque chose qui leur permettrait de pouvoir comprendre. Mais dépités, Johan, Guillaume et Isabelle ne trouvent rien après plusieurs heures de recherche. Au bout d'un moment pourtant, Johan est intrigué par un trou dans la bibliothèque. Il décide de mettre le parchemin posé sur le meuble d'à côté pour combler le vide. Après avoir posé l'ouvrage dans le trou, un tiroir caché jaillit du mur. Il l'ouvre. Il contient une clé. Avec cette dernière, Guillaume essaye d'ouvrir tous les coffres, puis il remarque une boîte cachée derrière la tapisserie. Dedans se trouve une statuette représentant une tête de cheval. En la soulevant, ils s'aperçoivent que son socle n'est pas lisse. Dessous se trouve un petit bout de papier la représentant, ainsi que cette inscription.
« De bois ou de fer, si Eugène meurt, il va en enfer. »
Au début, Guillaume ne comprend pas cette phrase, mais après l'avoir répétée plusieurs fois, Isabelle décide de la décortiquer. Guillaume se souvient alors d'un cours d'art plastique où le professeur a parlé du peintre Eugène Delacroix, car il avait créé un tableau représentant la bataille de Taillebourg. En plein milieu de celui-ci, il y a un cheval blanc, celui du roi de France, Saint-Louis. Autour, il y a plein de cavaliers et chevaux, cadavres ou vivants. À droite, un pont. À gauche, des personnes qui sautent du pont et qui tombent dans l'eau, des animaux qui sont très près du bord, presque les sabots dans le vide. En arrière-plan, on voit un château. Interloqués, ils n'ont que le temps de prononcer cette phrase à voix haute. Le portable d'Isabelle s'éteint subitement au moment même où celui de Johan clignote. Quant à celui de Guillaume, il ne cesse de vibrer pour s'arrêter brusquement. Machinalement, il le prend en main. L'écran s'éclaire et indique la date, 21 juillet 1242.
Enguerrand va enfin révéler son secret et les collégiens sauront s'il est un allié ou un ennemi. Il est temps, car leur mission ne leur est toujours pas révélée. Si Johan a le pouvoir d'entendre et Enguerrand celui de les voir, Isabelle et Guillaume ont-ils un don qu'ils ignorent ? Quant à la malédiction proférée contre Richard, elle se met en place.
Isabelle, Guillaume et Johan vous disent à demain même heure
pour la suite de Retour vers le passé sur Radio Pont.